Première rencontre entre René Girard et Milan Kundera, une complicité immédiate.
Quand j'ai lu votre, ce que vous dites sur le mimétisme, sur ce lynchage, n'est-ce pas, c'est le bouc émissaire, quand j'ai lu ça, parce que je ne suis pas philosophe, c'est-à-dire ma lecture est spécifique, alors je suis absolument fasciné par le réalisme de ces observations, n'est-ce pas, parce qu'on a toujours cette impression, mais oui, c'est comme ça, et une centaine d'exemples, je vois, parce que votre premier livre concerne le roman, n'est-ce pas, et ça m'intéresse à quel point vous étiez vraiment inspiré par la lecture des romans, quand vous parlez de l'anthropologie, etc. Je me rappelle par exemple, dans certains moments, vous dites lynchage au sud de l'Amérique. Vous dites, ma principale, ce sont les romans de Faulkner. Il n'y a pas beaucoup de documents, mais c'est Faulkner. Et vous dites encore une chose qui m'a beaucoup plu, de se réclamer de Faulkner pour apparaître aux spécialistes comme quelque chose de frivole et pas sérieux, oui. Parce que c'est une fiction. Et c'est là où il y a peut-être une très grande erreur de la pensée moderne qui a gommé ce que peut-être l'Occident apportait le plus, c'est-à-dire cette grande connaissance de l'homme qui s'oublie lui-même, parce qu'on vit, on ne sait pas ce qu'on vit, on l'oublie et on ne sait même pas. On dit la jalousie, on ne sait pas, on sait qu'il est jalouse, mais c'est dans les romans où on a travaillé ce problème, par exemple, de la jalousie, de la violence, de tous ces énigmes qui restent des énigmes et qui resteront des énigmes. C'est là. Alors, vous êtes, je crois, le seul qui a compris l'importance capitale de cette sagesse. Je ne sais pas si je me trompe.
Non, non, ce que je dis exactement. C'est s'il y avait des historiens dans 1000 ans, vous voyez, qui parlent du sud des États-Unis pendant cette période des lynchages, à l'époque où les gouvernements locaux n'en parlaient pas, où les journaux n'en parlaient pas, vous voyez, les historiens consulteraient les archives, vous diriez c'est les archives qui comptent. Et s'il restait un roman de Faulkner et qu'on dise la vérité n'est pas dans les archives, elle est dans le roman de Faulkner. Mm-hmm. Personne ne croirait, si les historiens sont les mêmes qu'aujourd'hui, vous voyez, ils auraient tous tort, visiblement. Ils manqueraient la chose essentielle sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan de la vie quotidienne qui déterminait ce pays à cette époque-là. Alors on peut prouver de façon très concrète que là, le roman c'est la vérité et le reste c'est le mensonge.
Oui. Et qui est même toujours un peu romantique.
Oui,
n'est-ce pas? Mais la façon vraiment surprenante dont on néglige l'art et le roman, n'est-ce pas? Vous avez maintenant ces fêtes autour de la Révolution, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est éditer les livres parce que c'est une coïncidence de date, c'est toujours plutôt antipathique. Mais quand même, je me suis dit un jour, alors, je connais trois romans français consacrés à la Révolution française. C'est un roman de Hugo, qui est un mensonge romantique, disons. Ensuite, c'est un roman d'Anatole France qui s'appelle Les Dieux en soir. Je vous dis, ce n'est pas un mauvais roman. C'est un roman tout à fait remarquable. Peut-être pas un grand roman, mais quand même, c'est quelque chose. Il a dit, c'est une analyse de ce qui s'est passé dans la Révolution, tout à fait remarquable. Et ensuite, il y a un roman qu'on a écrit à l'époque de la Révolution, Sénac de Meillan, L'émigré, qui est un roman très, très intéressant. Alors, vous avez deux ou trois regards romanesques sur la Révolution française. Et vous pouvez aujourd'hui lire centaines de livres politologiques, historiques sur la Révolution française, mais ces trois romans n'existent pas dans les librairies. Alors on se demande pourquoi. Alors, peut-être c'est parce que ce sont les romans soi-disant contre-révolutionnaires, parce que le roman est toujours contre-révolutionnaire, n'est-ce pas, dans certains sens. C'est-à-dire, il est toujours critique à l'égard des illusions romantiques, à l'égard du mensonge romantique, c'est-à-dire il donne toujours l'impression de quelque chose qui est inacceptable pour un certain optimisme révolutionnaire, aussi pour un certain optimisme des fêtes nationales, c'est-à-dire c'est une raison. Alors on écarte un regard qui est trop sceptique et trop analytique. Et l'autre explication pourrait être tout simplement que l'art, le roman, la littérature a cessé de représenter quelque chose, que l'Europe est déjà prête à rejeter toute cette sagesse, si vous voulez, tout cet héritage, et qu'elle est prête à s'oublier elle-même. C'est une autre explication peut-être de cet événement épisodique qui consiste dans cet oubli de trois romans ou deux romans sur la Révolution française, à l'époque où on utilise n'importe quel prétexte pour répéter, n'est-ce pas, les choses sur la Révolution française.
Mais Les dieux ont soif, c'est un roman d'autant plus intéressant que Anatole France, on a l'impression, est poussé par le génie romanesque contre
absolument,
lui-même.
Absolument, c'est ça.
Parce que ce n'est pas son idéologie.
Absolument.
C'est d'autant plus frappant.
Oui, 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 oui. Exactement. Exactement. Oui, oui. Parce que c'était quelqu'un, n'est-ce pas, qui a flirté avec toutes les idées, souvent facilement progressistes, et tout d'un coup, il écrit un roman qui est un roman authentique, qui est un roman drôle, qui est un roman plein d'inventions, mais peut-être une fois, j'ai parlé avec Sioran de ce roman, et Sioran m'a dit, bien sûr, ironiquement, attention, ne parlez jamais de Anatole France, vous serez ridiculisé pour toujours.
Alors,
parce qu'il sait ce que c'est la force de la mode et des idées reçues, et il y a une idée reçue que Anatole France qui est barbant et ridicule.
Oui, c'est les surréalistes qui ont fait ça.
Oui, qui ont fait ça, ça a resté, monsieur.
C'est resté, oui.